On a appris en fin d'après-midi que le Grand Prix du Canada convoque les médias demain pour une mise au point concernant l'édition 2020. Alors, c'est une mise au point. C'est à 10 heures demain matin, 24 juillet 2020. Donc là, les spéculations vont bon train. Est-ce que c'est parce qu'on va nous annoncer que l'édition 2020 est annulée? Est-ce qu'on va nous annoncer qu'on attend encore les décisions des grands bonzes de la Formule 1? On ne sait pas trop, mais il y a un site spécialisé qui s'appelle Pole Position et c'est un magazine de sport automobile québécois crédible. Philippe Lagu est avec nous pour nous parler de ce dossier-là. Salut Philippe.
Salut Yannick.
Alors Philippe, tes collègues de Pole Position, le titre de l'article, c'est Montréal, Austin, Mexico et Hockenheim. Tous retirés du calendrier révisé de la F1? Es-tu tenté par croire ce que tu lis dans cet article-là?
Bon, il faut d'abord dire qu'à la fin du titre, il y a un point d'interrogation.
Exactement.
Alors, ce n'est pas une affirmation de Pole Position.
Je pensais que j'avais fait l'intonation
oui,
nécessaire.
Oui, ton intonation était très correcte, mais je voulais que ce soit très, très clair pour ceux et celles qui nous écoutent, là. Que Pole Position ne dit pas que les
que
quatre épreuves vont être retirées. Mais il y a des fortes chances. Et Pole Position, tu l'as dit, puis je le répète, c'est vrai que c'est une source qui est très crédible. Alors, c'est notre collègue Philippe Brasseur qui a sorti cette nouvelle. Ça voudrait donc dire qu'on annulerait le Grand Prix du Canada, le Grand Prix des États-Unis, le Grand Prix du Mexique. Donc, les trois Grands Prix qui devaient être disputés en sol du côté des Amériques, là. Donc, et ça, on peut comprendre parce que on veut pas, en fait, la situation sanitaire est vraiment pas bonne aux États-Unis et au Mexique. On peut inclure le Brésil là-dedans aussi parce qu'il devait avoir une course au mois de novembre au Brésil. T'sais, c'est le deuxième pays plus touché par la COVID.
Non, c'est sûr.
Je serais très, très surpris qu'il y ait un Grand Prix au Brésil. Mais Hockenheim, c'est pour des raisons financières. Alors là, on dit, OK, le Brésil, le Mexique, les États-Unis, ils ont de la misère, ils gèrent pas très, très bien la COVID, pour employer un euphémisme. Mais ici, au Canada, pourquoi il y aurait pas moyen de faire un Grand Prix? C'est parce que là, si c'est juste pour une épreuve en Amérique du Nord, ça devient difficile de justifier le déplacement de toute l'armada de la F1 en Amérique. Parce que nous ne l'oublions pas, la Formule 1, c'est avant tout une affaire européenne.
Parce que habituellement, le circuit de Formule 1 veut présenter des épreuves sur tous les continents.
Sur tous les continents, idéalement, c'est ça. Mais là, on s'entend que 2020, c'est pas une année comme les autres, hein?
Non.
Alors ça change toute la patente. Puis ce que Pole Position explique très, très clairement aussi, c'est que la F1 ne facture pas le promoteur local quand ça se passe à huis clos. Alors là, à ce moment-là, s'il y avait un Grand Prix à Montréal, ben oui, il n'y aurait pas de spectateurs. Et là, à ce moment-là, c'est la Formule 1 qui paierait les dépenses. Alors ça, si ça se passe en Europe, encore une fois, ça va, parce que les équipes sont pas loin. Sont toutes basées en Europe.
Là, ça coûte plus cher, faire traverser les équipes
là,
ici.
C'est pas envisageable des amener en Amérique du Nord juste pour une course avec les frais de transport, les avions spéciaux, puis tout ça. Oublie ça, là.
On n'avait pas évoqué le scénario suivant pour le Grand Prix du Canada à un certain moment, là. À partir du moment où on a dit il n'y en aura pas momentanément et aujourd'hui. On n'avait pas évoqué le scénario qu'il se pourrait qu'on puisse présenter le Grand Prix du Canada avec des spectateurs, mais pas à pleine capacité.
Encore là, ça, c'est une question de santé publique.
Exactement, avec l'accord de la santé publique,
alors,
évidemment.
Moi, mon expertise s'arrête à la Formule 1. Pour les questions de santé publique, je peux difficilement me prononcer.
OK. Mets-tu un astérisque sur ce calendrier 2020, alors qu'on sait que c'est pas un calendrier complet? C'est quoi ta position là-dessus, toi?
Ben, je mets un astérisque, oui et non. En ce sens que, tu sais, c'est quand même les mêmes pilotes puis les mêmes équipes. Uh-huh. Alors, si Lewis Hamilton, par exemple, est sacré champion du monde pour une septième fois, pour moi, il n'y a pas moins de mérite. Puis, personne n'a moins de mérite. Il n'y a pas un pilote qui a moins de mérite quand il gagne une course cette année parce que ce sont les mêmes pilotes et les mêmes équipes. C'est pas comme quand tu mets un astérisque au baseball parce qu'on a su que finalement le frappeur se dopait.
Ouais.
C'est pas ça, là. On n'est pas là, là. Tu sais, c'est pas Barry Bonds, puis c'est pas Mark McGwire, là. On n'est pas dans cet univers-là. C'est juste une saison qui aura peut-être, au final, un petit peu moins de courses, mais c'est quand même, sur le plan de la compétitivité, c'est la même chose, là. C'est pas un produit dilué que les gens ont en Formule 1 en ce moment. Pas du tout.
C'est les mêmes écuries, c'est les mêmes pilotes, c'est les mêmes équipes.
Et
c'est les mêmes résultats.
Voilà. Ouais, malheureusement, ça, il y en a qui peuvent s'en plaindre, mais en même temps, comme j'ai déjà dit, il faut garder le verre d'eau à moitié plein aussi. On a quand même le privilège de voir un des plus grands pilotes de tous les temps en ce moment, qui est Lewis Hamilton.
Étais-tu un de ces nostalgiques, toi, qui aurait aimé voir le Grand Prix du Canada disputé en octobre, puis là, tu te serais remémoré cette victoire de Gilles Villeneuve à l'automne?
Ben oui et non, parce que moi, j'étais là. Lorsqu'il y a eu des Grands Prix du Canada à l'automne, j'étais là en 78, en 79 et en 81. Il y en a un que j'ai manqué. Je me rappelle pas si c'est 79 ou 80, là. Mais j'ai gelé. J'ai gelé ma vie en 78. Vraiment, mais tu sais, bon, j'ai le gagné, fait que ça, c'est pas grave.
Ça réchauffait le cœur.
Ah, même si j'étais malade, t'es malade pendant 3 jours après, puis t'étais transi de froid pendant la journée, tu l'oublies. Et quand Gilles a eu son extraordinaire podium aussi en 81, sous la pluie, quand il avait perdu son aileron, puis il avait réussi à finir 3e, il pleuvait, puis il faisait pas froid, là, il faisait frette. C'était effrayant, là. Fait que là, t'avais la pluie, le froid. Tu sais, en octobre,
donc, comparer
à Montréal,
les deux, tu préfères juin?
Ah oui, incontestablement. Parce que au mois d'octobre, c'est vraiment un gamble, là. Tu sais,
c'est sûr.
Il peut faire très beau, mais tu peux te les geler aussi, là.
Ouais. Alors, on rappelle aux gens, Philippe, que le Grand Prix du Canada a convoqué les médias pour une mise au point concernant l'édition 2020, demain à 10h. Il y a le site Pôle Position, un site québécois de sport automobile qui, avec le titre Montréal, Austin, Mexico, Hockenheim, tous retirés du calendrier révisé de la F1 avec un point d'interrogation. On devra en savoir un petit peu plus demain sur l'avenir de l'événement en 2020.
Alors, réponse définitive demain, oui. 10h.
Avant de te quitter, Sébastien Vettel avec Racing Point, c'est-tu
bien dit? Il n'y a pas de fumée sans feu, là. Tout le monde en parle. C'est pas fait.
Semble-t-il que Sergio Pérez s'en va?
Bon, il s'en irait. La dernière rumeur, c'est qu'il s'en irait chez Alfa Romeo. Ce que je trouverais personnellement très dommage, parce que Sergio Pérez a prouvé au cours des dernières saisons que c'est un gars qui méritait de piloter pour une équipe A. Ce serait dommage qu'il se retrouve avec une équipe B. Très, très, très dommage.
Philippe Lagut, merci beaucoup. À bientôt.
Toujours un plaisir.
Merci bien. On va poursuivre en parlant de F1 avec Ray Lalonde pour la chronique Sport Business. Salut, Ray.
Salut, Yannick.
Ray, t'as entendu l'entretien avec Philippe. On ne sait pas trop s'il va avoir un Grand Prix en 2020 ici à Montréal. Mais s'il n'y en a pas, c'est quoi l'impact pour cet événement-là?
Ce qui est dur pour ça, puis Philippe a bien décortiqué un peu la chose, c'est en F1... un organisateur, un promoteur a une gestion d'une course par année. Mm-hmm. Ça veut dire que sur 365 jours, Yannick, ben, t'as 362 jours où t'es pas en gestion d'événements. Mm-hmm. Tu comptes tellement sur tes 3 jours. Fait que tu fais de la préparation, tu dois vendre tes billets puis commercialiser l'événement, bien sûr. Mais imagine sauter une année. C'est déjà dur là, qu'on ait passé le mois de juin. Puis avait travaillé très fort toute l'organisation pour se préparer à cette course-là. Puis là, la pandémie a sévi, puis a reporté à plus tard ou suspendu de façon indéterminée. Puis là, si on annonce qu'il n'y a pas de course pour l'année, ce qui est possible, pour toutes les raisons énumérées, bien, non seulement ça fait mal à l'événement, à l'organisation, à la motivation des gens qui travaillent autour de la course de F1 à Montréal, mais ça fait mal un peu à l'économie, tous les gens dans le voisinage du centre-ville qui compte beaucoup sur l'impact économique, puis cette espèce d'engin qu'est la F1 à chaque année. C'est le plus gros événement d'une journée au Canada en termes d'assistance. Tu sais, la F1, on a le privilège à Montréal d'accueillir la course. Toronto n'a pas de course d'F1. Vancouver n'a pas de course d'F1.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, ça rejaillit sur l'importance de la métropole et de Montréal sur le plan mondial et le plan sportif. Et c'est une course qui est appréciée par les coureurs, puis c'est une course aussi en levante, parce que, tu sais, c'est pas une piste qui est moche. Il y a des dépassements, il y a du drame, il y a du théâtre, c'est tout très important. Fait que, mais tu sais, encore une fois, on fait face à des conditions absolument exceptionnelles. Et c'est pas facile pour les organisateurs de la F1 de Liberty Media, puis c'est pas facile pour les promoteurs locaux d'une course à l'autre qui doivent composer avec ceci. Alors, il y a un danger important et il y a une énorme baisse de motivation. Il faudra attendre une autre année complète pour se préparer pour 2021.
Alors, on va voir tous les détails demain. Il y a un point de presse qui est prévu à 10 heures demain pour faire, on dit dans le communiqué, là, pour faire une mise au point concernant l'édition 2020. Écoute, on va y aller en rafale pour les quatre autres sujets qui nous restent. Qu'est-ce que tu penses de ça, le Kraken de Seattle?
J'aime le nom, Yannick. On s'y attendait un petit peu. Ils l'ont bien expliqué, c'est-à-dire c'était un nom qui était populaire dans l'espèce de connexion avec les partisans locaux. Moi, je pense que Seattle, ça va être une belle réussite. La rivalité naturelle avec Vancouver va se faire avec les équipes de la Californie. Il y a de l'argent à Seattle. Honnêtement, c'est un château fort de technologie puis d'innovation. Et des Starbucks, les Boeing, les Adidas pas trop loin, les Nike en Oregon, les Microsoft, évidemment. Là. Alors, tu parles de grandes entreprises, il y a énormément de potentiel. C'est une équipe des années modernes 2020, ça va être dans la lignée des Golden Knights. Bon, c'est sûr qu'un lancement d'équipe comme aujourd'hui, compte tenu de la pandémie, qui fait en sorte que tu n'es pas dans une enceinte, dans un amphithéâtre avec plein de monde pour la cité. T'sais, eux autres ont eu un succès fou lors de la mise en vente de... Ben pas la mise en vente, mais les réservations de billets de saison au tout départ. Là. Il y avait eu comme 10 000 en 10 minutes, puis 32 000 pile en à peu près 40 minutes. Ça s'est fait rapidement. On n'a pas vu cet enthousiasme-là aujourd'hui. J'ai trouvé que le lancement en tant que tel, c'était un petit peu exécuté froidement. T'sais, c'était on dirait qu'on devait tout lire, puis il manquait d'émotion.
Bien, c'est sûr que si tu compares avec le lancement des Golden Knights de Las Vegas...
Mais ben, il faut le comparer à ça, c'est eux qui ont mieux réussi.
Il va avoir le jeu des comparaisons, c'est sûr.
Oui, je trouve que le logo est correct, il est bien, les couleurs sont belles. Ça va être une équipe qui va être adoptée de façon profonde dans la région du Nord-Ouest américain. Puis c'est le fun d'avoir 32 équipes finalement dans la Ligue nationale de hockey. Puis le Kraken, c'est différent. Tu sais, c'est différent dans le sens que, tu sais, c'est un peu cette espèce de mythe, là, comme un Loch Ness en Écosse.
Ouais, ouais,
là,
ouais.
C'est le Kraken à Seattle dans le Puget Sound, c'est-à-dire le bassin d'eau là-bas. Puis, tu sais, toutes des choses positives. Puis, ils vont pouvoir travailler très fort avec Adidas. Ils ont des gens compétents à la direction de cette équipe-là. Ben, j'ai juste trouvé que... Il aurait pu faire mieux au niveau technologie, au niveau du lancement aujourd'hui pour créer encore plus de buzz.
OK, c'est
mon opinion.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Washington Football Team? Un nom temporaire des Redskins qui n'existe plus.
Oui, bien, ils vont garder les mêmes couleurs. Ils vont mettre un numéro sur le casque au lieu du logo. Tu sais, ils pensaient il y a deux semaines à l'annonce qu'on abandonnait le nom des Redskins, qu'ils étaient capables de mettre ça en branle assez rapidement. C'est pas possible, c'est pas réalisable. Ça fait moche un peu, le Washington Football Team. Encore une fois, c'est un peu à l'image de Dan Snyder, puis je veux pas être critique, mais je vais quand même dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas un grand dirigeant sportif, ça, Dan Snyder. C'est pas un gars qui connaît beaucoup de succès dans ce qu'il fait là. Il a beau être riche puis milliardaire, ça veut pas dire que tu sais comment gérer une équipe et un produit de sport comme ça. Moi, je trouve que ça laisse à désirer, puis il aurait pu faire mieux que ça pour une équipe de la NFL qui a tous les moyens possibles.
OK, toi, l'amateur de sport, là, j'imagine qu'après m'avoir parlé, tu vas regarder le match entre les Nationals et les Yankees de New York.
Je veux juste
te dire que le premier coup de circuit de la saison 2020 appartient à Giancarlo Stanton. Je vais te dire une chose. Si tu as du temps pour te rendre à Washington, la balle est encore dans les estrades. Il n'y a pas d'amateur.
Non, mais c'est, je suis content pour le baseball. Ça a été souffrant de les voir négocier ensemble, Yannick. C'est vraiment pas harmonieux, cette relation-là, entre l'association des joueurs et les dirigeants propriétaires. On va jouer 60 matchs. Mm. Les Blue Jays vont être sur la route toute la saison. Les Nationals et les Yankees, c'est une belle affiche pour commencer. Le Dr. Fauci a fait le premier lancer.
Oui.
Ça a été un peu tout croche, mais c'est pas grave. C'est un héros un peu aux États-Unis.
Ben oui. Oui.
Même au Canada, on reconnaît l'importance de cet homme-là. Il méritait le moment, c'est son équipe. J'ai hâte de voir les matchs samedi.
Bon, là, parle-nous de ça, de cette initiative de Fox Sports. Pour le téléspectateur, ça va être assez particulier.
Oui, bien, tu sais, toi qui es dans la télé depuis des années avec RDS, tu vas voir que Fox Sports, il va d'un gros coup, là. C'est-à-dire qu'ils vont créer ce qu'on appelle les « virtual fans », c'est-à-dire des spectateurs combiné avec du son puis de l'audio de façon virtuelle. Les gradins vont être remplis, pas avec des cartons, pas avec des mannequins, pas avec des chandails sur les sièges, là, mais avec des gens virtuellement placés qui n'existent pas, mais qui vont donner l'impression pour la diffusion télé, Yannick, que c'est plein, puis que ça crie au bon moment, puis que l'audio va être synchronisé avec les actions sur le jeu. Et c'est Joe Buck qui va être de retour avec John Smoltz pour faire la description des matchs. Ça commence samedi, justement, Yankees-Nationals, encore une fois, à 19h. Ouais. Je vous encourage à le regarder, parce que ce qu'ils ont envoyé là, pour un peu teaser les gens, là, t'sais, les faire languir un peu.
Aguicher un peu.
Ouais, ouais, ça a donné un très bel effet. Et puis, j'ai hâte de voir ça vis-à-vis ce qu'on a vu dans des situations où il n'y a personne dans les gradins et il n'y a pas de bruit.
Ouais.
Puis c'est sûr que le baseball joue dans les stades majeurs. Ils ont les moyens, puis ils ont plus de technologie que de te retrouver dans un Walt Disney World, Wide World of Sports Complex comme la MLS ou la NBA. C'est pas des stades de ligue majeure. Tu comprends-tu? Alors les moyens sont pas les mêmes.
Oui, puis je vois là, du coin de l'œil le match qui est présenté à RDS présentement. Je vois qu'ils ont mis de grandes toiles également sur une grande partie des bancs qui sont vides, là, pour peut-être un peu atténuer le fait qu'il n'y a personne dans les estrades.
Ben moi, j'encourage les gens à regarder. Là, peut-être, à tous les jours, il y a 2-3 matchs simulés de la NBA. Là.
Oui,
ça, ça veut dire simulés, ça veut dire des matchs qui sont un peu à semi-entraînement, parce qu'il faut se rappeler que la NBA, qui recommence sa saison bientôt, vont jouer 8 matchs de saison régulière, Yannick, avant d'entamer les séries.
C'est vrai.
Mais actuellement, ils ont commencé des matchs simulés hier. Là. Puis aujourd'hui, j'ai regardé Pacers-Blazers. Hier, j'ai regardé les Clippers qui jouaient contre le Magic. Puis ça devient comme... Il y a 3 terrains qui vont être utilisés. Tu vois bien le logo Black Lives Matter. Tu as un logo de la NBA au centre du terrain. Mais c'est juste de l'électronique autour et dans les gradins. Donc, ça crée une espèce d'environnement un peu bizarre. Ça ressemble à un jeu vidéo, à NBA 2K sur PlayStation. Mais... c'est aux couleurs, par exemple, des Pacers aujourd'hui qui étaient l'équipe locale. Alors, c'est comme des grands panneaux électroniques tout le long du terrain qui remplacent un peu les gradins avec les spectateurs qu'on verrait normalement. Alors, c'est assez particulier, mais le jeu était bon, la qualité, les joueurs étaient prêts. J'ai aimé le spectacle, les matchs étaient serrés. Ça continue. On va falloir qu'on s'habitue un peu à tous ces nouveaux modèles de diffusion.
C'est sûr, c'est sûr. Et ce soir, c'est le baseball. La semaine prochaine, comme tu l'as mentionné, c'est le début de la NBA. Ça commence le 30 juillet. Donc, lentement, mais sûrement. Puis le 1er août, ben, même avant le 1er août, la Ligue nationale, c'est...
la semaine prochaine.
La semaine
prochaine, je pense, c'est ça.
C'est ça, le Canadien contre les Maple Leafs. Donc, ça s'en vient lentement, mais sûrement, Ray. Ça s'en vient.
Oui, puis tu sais, c'est ce qui est important, Yannick, c'est que les ligues ont persévéré dans leurs efforts et leurs espoirs de trouver une solution.
Oui.
Et ça, c'est important, non seulement pour le côté économique, bien sûr, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle à jouer pour divertir le public dans des temps difficiles.
Tout à fait. Et on se répète toujours, mais les tests effectués auprès des athlètes, ça semble bien fonctionner. Au début, là, c'était un petit peu chaotique, là, mais là, toutes les ligues ou à peu près, la NBA, la MLS, la Ligue nationale, le baseball, il n'y a presque plus de cas.
Les joueurs, malgré le fait qu'ils sont ultra riches puis qu'ils ont les grands moyens, puis que ce sont des athlètes professionnels, Yannick, il y a une chose qui est claire, c'est des humains comme toi et moi. Ils ont peur de ce virus-là. Ils ont peur de contaminer leur famille. Alors, ils sont prudents. Mmh. Et tant et aussi longtemps que les joueurs vont respecter les conditions et les normes, on va avoir des athlètes en santé puis on va pouvoir poursuivre la saison. Il ne faut pas qu'il y ait un déraillement de ce train-là.
Tout à fait. Tu as absolument raison. Ray, je te laisse aller regarder le match de baseball.
Merci, Yannick.
Merci beaucoup. Très intéressant. Salut bien. À bientôt. Alors voilà, Ray Lalonde pour la chronique Sport Business. Il y a toujours des choses à dire, intéressantes à dire, notre ami Ray. Toujours bien intéressant de lui parler. Au retour, on va s'entretenir avec le représentant des joueurs du Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football, parce que vous savez, il n'y a toujours pas de plan de relance. Oui, on dit on veut une saison de 6 matchs peut-être au mois de septembre, mais il n'y a rien de concret encore parce que ça prend quoi? Ça prend une entente, ça prend une convention collective signée en bonne et due forme entre l'Association des joueurs et entre les dirigeants de la Ligue canadienne. Donc, Antoine Pruneau va venir nous expliquer comment ça se déroule et s'il a confiance qu'il y ait un dénouement dans ces négociations.